Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Lola Berthet, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Philippe Duclos. J'ai voulu parler d'une gourmandise qui plaise à notre invité, féru de mathématiques. J'ai trouvé une chose belle et inutile, et donc dans l'abstraction parfaite de laquelle on peut se réfugier quand le réel est trop pesant. Sachez donc, chers auditeurs, qu'en sélectionnant de façon ordonnée quatre chiffres adjacents formant un carré sur le clavier d'une calculatrice ou d'un digicode, on obtient, en les mettant les uns à la suite des autres, un multiple de 11, et je ne sais pas du tout à quoi cela peut vous servir, mais je trouve ça fascinant. Et comme je n'ai pas pu mieux l'expliquer que ce que je viens de dire, il y a des chances que ce soit pas compris. Mais je vous invite à aller voir le chaleureux lien qui sera mis sur le site de l'émission et qui explique tout en détail. Dans les années 70, notre apothicaire de l'âme prend la sage décision de sécher ses cours d'économie pour suivre les classes d'art dramatique de Tzila Shelton. Avec ses camarades de jeu, ils fondent la troupe de café-théâtre du Splendide. Leur premier spectacle, Non Georges, pas ici, marque le début d'une collaboration créatrice d'Antidote au Spleen à l'efficacité immuable. Les spectateurs Zilar apprennent par cœur les répliques imaginées par la troupe, en particulier celle des bronzés, Amour, coquillage et crustacés au théâtre, ou celle du Père Noël est une ordure adaptée au cinéma par Jean-Marie Poiret. Notre homme imprègne les planches et les pellicules de son flegme irrésistible et imagine le scénario d'un film à sketch qui ne ressemble à aucun autre, Les secrets professionnels du docteur Apfelgluck. Je tenais par pur snobisme à citer ce titre dans l'introduction plutôt que les plus attendus, Le dîner de con, un indien dans la ville. En parallèle de sa carrière d'acteur, notre apothicaire nourrit depuis l'enfance une passion pour les sciences et la lecture et maîtrise aussi bien l'informatique que les chevaux. Depuis 2004, il est également le parrain et porte-parole de la Fondation pour la Recherche Médicale, ce qui lui vaut plusieurs chroniques dans divers médias, dont celui que vous écoutez en ce moment. Salutations à Ali Rebeilly. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Eva.
Thierry Lhermitte, quel est votre rapport à la mélancolie ?
Mais je déteste ça. Je déteste la mélancolie. La mélancolie, c'est la bile noire. C'est une maladie. Je déteste ça. Malheureusement, j'y suis confronté quelquefois, mais je fais tout pour l'éviter. Ouais.
Alors comment ça se manifeste chez vous ? Est-ce qu'elle vous poursuit ? Est-ce qu'elle vous guette régulièrement ? Ou vous arrivez à vous en tirer ?
J'arrive à m'en tirer par beaucoup d'occupations et de... Ouais, beaucoup d'occupations, voilà. Mais c'est un sentiment que j'exècre tellement que je fais tout pour pas en être victime. Vraiment.
Et ça marche, parce que parfois on la déteste, mais ouais. Elle ne peut pas y échapper.
Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'aime bien les gens mélancoliques, j'aime bien les créations des gens mélancoliques, mais l'être moi-même, non.
Ça ne vous arrive pas d'être terrassé ?
Si, ça m'arrive, mais je me mets à faire faire quelque chose où je prends des médicaments. Ouais.
Des anxiolytiques ou des antidépresseurs
ouais. Oui. Le remède à la mélancolie, c'est le Prozac. Ouais.
C'est vrai, voilà. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des effets secondaires qui parfois plongent encore plus.
Oui, c'est trouver la bonne molécule.
Oui, ouais. Et il en existe.
Oui.
Il faut être patient.
Oui, ça en existe. Ouais.
Ah, la patience, j'en ai entendu parler. Bon, que va-t-on aborder aujourd'hui ? Mario Monicelli, ouais. Des chevaux, des farces, Xavier Graal, le groupe Loni Montem, Alain Souchon, Van Gogh, Matisse et Rudyard Kipling, juste après Fleur de peau de Jeanne Chéral dans la playlist France Inter.
Sous des voilures opaques, je n'ai jamais dû me courber. Je n'ai jamais tremblé de peur au son d'un parquet qui craque. Jamais dû me planquer. Je n'ai jamais connu la guerre ni la mort sur du froid. Jamais la faim qui ronge les doigts. Et pourtant chaque jour je sens monter la plainte sans joie. Oh, mais tais-toi. traverser la mer pour quitter mon pays. Je n'ai jamais risqué ma vie. Je n'ai jamais frôlé la mort au hasard de la folie. Jamais voulu l'oubli. Je n'ai jamais serré la main menottée de la loi. Jamais perdu, brisé ma voix. Et pourtant chaque jour je sens monter la plainte sans joie. Oh, mais tais-toi.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Thierry Lhermitte.
J'avais compté sans mon fils. En effet, je n'arrive jamais à me rappeler s'il enseigne à Milan les jours impairs et à Florence les jours pairs, ou bien le contraire. Et je ne me souviens pas non plus quel dimanche il reste avec moi et lequel il va chez sa mère. Résultat, je le trouve toujours fourré dans mes pattes à l'improviste.
Oh, papa!
Non, 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 mais non, ne t'inquiète pas, Luciano.
Mais comment voulez-vous que je ne m'inquiète pas avec un père tel que vous?
Il n'y avait pas cru un seul instant. Pour être intelligent, il est intelligent. Mais il n'a pas le moindre sens de l'humour.
Ne croyez pas que vous pourrez faire avec moi ce que vous avez fait avec maman. Vous l'avez rendue folle. Mais quand vous déciderez-vous à grandir, papa? Quand aurez-vous fini de faire l'imbécile?
J'étais perplexe. Était-ce moi l'imbécile parce que je prenais la vie comme une vaste blague? Ou bien était-ce lui qui la subissait comme une condamnation aux travaux forcés? Peut-être l'étions-nous tous les deux.
1975, Philippe Noiret dans Mes chers amis de Mario Monicelli, un projet de Pietro Germi qui, malade, n'a pu le réaliser. Là, on entend Philippe Noiret avec lequel vous avez tourné, Thierry Lhermitte.
Oui, 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 mon ami, je peux m'en flatter.
Vous avez choisi ce film qui est un bonbon absolu.
Ouais.
Déjà, il y a le charme italien qui est absolument irrésistible.
Ouais, et puis cette vision de la vie, là, qui est résumée à la fin. Est-ce que c'est une vaste blague ou une condamnation aux travaux forcés et perpétuité? Ben, c'est ce truc du cinéma italien, quoi, de ce genre de comédie italienne dans lequel, voilà, on prend rien au sérieux et c'est néanmoins profond. Et léger à la fois, quoi. C'est une merveille.
Alors c'est un groupe de 5 amis, enfin 4 au début puis 5, qui disent qu'ils sont tziganes quand ils font des virées de petits garçons finalement, où ils font des canulars, des blagues et rendent les gens fous. Par exemple, ils vont à la gare, puis tous les gens qui sont penchés à la fenêtre du train, ils leur filent des baffes.
Le train qui s'en va, que ça, les gens peuvent pas réagir, ça mourir de rire. Que des très très grosses bêtises et bon, c'est formidable.
Et ce n'est pas exempt de mélancolie puisque il y a une scène, je vais pas la dévoiler aux auditeurs, mais on pleure.
Oui, ça n'empêche pas l'émotion, hein, mais de prendre la vie de cette manière-là, c'est une merveille, quoi.
C'est la façon dont vous la prenez?
J'essaye, ce serait un idéal, quoi, de jamais se prendre au sérieux et de voir le côté marrant. En plus, dans ces comédies italiennes, les gens, chaque fois qu'ils racontent quelque chose, c'est pour se montrer ridicule, c'est jamais pour se mettre en valeur, quoi. C'est de l'élégance en plus de cet humour et de cette dérision, quoi.
Je sais qu'un cheval, on n'en fait pas le tour. On le découvre de semaine en semaine, de mois en mois. Un petit exemple, celle-ci s'appelait Flûte. C'est son nom sur le pédigré. Flûte, ça ne me flattait pas énormément. Alors j'ai dit, il faut que je lui trouve un nom intime, un nom personnel. Et je l'ai appelé Fedora, parce que j'avais vu un film avec Marthe Keller où Fedora est une star qui était le mystère, la solitude, l'orgueil et le courage. Et au fur et à mesure de notre intimité qui s'est créée, je me suis aperçu que Fedora, quand elle sautait des petits ruisseaux qu'elle ne connaissait pas au départ, avait des mouvements de gaieté très cocasses et très rigolos, qu'elle avait des bouderies, qu'elle avait des absences totales de courage certains jours. Elle ne pouvait pas s'appeler Fedora, c'est impossible. Je l'ai appelée Jeannine.
C'est Jean Rochefort qu'on entend dans l'émission Question de temps animée par Jean-Pierre Elkabbach sur Antenne 2 en 78. Bon, vous me voyez venir, Thierry Lhermitte. Ouais. Je voudrais aborder l'activité qui vous grise, la fréquentation des chevaux. Vous montez depuis que vous avez 15 ou 20 ans, je crois.
Oui, non, j'ai monté gamin, mais je m'y suis remis il y a 20 ans avec passion. Et j'ai découvert l'équitation éthologique et puis l'éthologie en général.
Alors justement, l'éthologie, on a changé la définition au cours de l'histoire. Vous pouvez nous dire.
L'éthologie, c'est l'étude des êtres vivants dans leur milieu naturel. Bon, alors du coup, ça s'est appliqué à mauvais escient à l'équitation éthologique parce que c'est une équitation dans laquelle on tient plus compte du comportement du cheval que de la manière dont il se déplace. Voilà. Bon, mais enfin bon, peu importe. Voilà, être avec les chevaux, essayer de les comprendre, essayer de comprendre pourquoi ils acceptent de nous porter, pourquoi ils acceptent de faire des choses qu'on leur demande, c'est merveilleux, voilà, ça m'apporte beaucoup.
Vous êtes titulaire d'un brevet d'encadrement d'équitation éthologique.
Oui, oui. Donc du coup, je l'enseigne. Et j'ai beaucoup de plaisir à rendre la vie des gens et des chevaux meilleurs. Les uns avec les autres.
Ouais. Oui, on parle d'équithérapie, je crois.
Ouais, ça je pratique pas, mais équithérapie, oui, parce que les gens en face des chevaux sont un peu démunis, donc ils réagissent avec ce qu'ils savent faire, leur instinct, puis ils s'aperçoivent éventuellement que ça marche pas. Ils trouvent autre chose, et puis éventuellement ils l'appliquent aussi dans leur vie.
Ouais. Thierry Lhermitte, vous n'avez jamais eu peur avec vos chevaux ?
Si, bien sûr, on peut avoir peur. Mais plus on en sait, moins on a peur. Moi, j'ai un maître qui m'avait dit la peur, c'est une pièce noire et la connaissance apporte de plus en plus de lumière dans cette pièce noire. Ça m'a enlevé, voilà, ma peur disparaît plus je connais. Mais au final, il suffit de se trouver devant de l'inconnu et puis on peut réavoir peur.
Est-ce qu'il y a quelque chose que les chevaux vous ont enseigné ? Que ce soit pour les rapports avec les chevaux ou les rapports avec les humains ?
Oui, parce que les chevaux, on ne peut pas les accuser de ne pas comprendre ce qu'on leur demande. Enfin, il y a des gens qui le font, hein, mais c'est une grosse erreur de penser qu'ils ont la moindre idée de ce qu'on veut leur faire. Donc, s'ils ne font pas ce qu'on leur demande, c'est que ou ils n'ont pas compris ou ils ne peuvent pas. Voilà. Ou ils ne veulent pas pour diverses raisons. Mais la première raison, c'est qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'on veut savoir. Donc, être clair et porter la responsabilité des conséquences de ce qu'on obtient avec un cheval, ça s'applique facilement dans la vie.
Ouais. C'est une bonne école.
Ouais.
Comment s'appellent vos chevaux, Thierry Lhermitte ? Je suis toujours curieuse des noms d'animaux.
Le dernier, il s'appelait Elegido. Ça veut dire élu, choisi en espagnol. Et celui d'avant, il s'appelait Wallace.
Parce qu'il était américain.
Oui, il était américain, celui d'avant.
Alors, vous avez dit, Thierry Lhermitte, dans une interview, je dis toujours que les chevaux vivent comme si nous étions manipulés par des écrevisses géantes qui parlent finlandais. J'ai absolument rien compris.
Non, ce que je veux dire, c'est que quand on demande quelque chose à un cheval, ok, nous, on est des êtres extrêmement différents, on est carnivores, pour la plupart, on marche sur deux pieds au lieu de quatre, on parle une langue dont ils n'ont pas la moindre idée, et donc, je dis, mettez-vous à la place des chevaux. Et comme si vous étiez entouré d'écrevisses géantes qui parlent finlandais et qui vous demandent de faire des choses. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre ? Ouais, vous allez vous dire, tiens, c'est marrant, ils font je crois clic, par exemple. Et puis, vous savez pas quoi faire, du coup, vous faites un mouvement, et puis ça s'arrête de faire je crois clic. Elle dit, ah, donc j'arrête, je clonc clic quand je fais ça. Alors c'est peut-être ça que ça veut dire, peut-être que clonc-clic ça veut dire fais ce truc-là. C'est comme ça qu'ils apprennent, ils n'ont pas d'autres moyens, ils ne savent pas le pourquoi on veut faire des choses aussi absurdes que celles qu'on leur demande. Parce que pour eux par exemple, sauter un obstacle quand on veut passer à côté, c'est absurde, pour nous aussi. Il y a un exemple que je donne, par exemple, les chevaux on les oblige dans les manèges qui ont des coins évidemment, à aller bien dans le coin et faire bien le tour du coin. Qui fait ça dans la vie ? Les autistes, peut-être. Mais sinon, quand on peut couper pour aller au plus court, tout le monde fait le plus court. Donc, demander à un cheval de faire le coin pour aller de là à là, mais c'est absurde. Donc, il faut lui faire comprendre que néanmoins, on voudrait quand même faire le coin. Voilà.
Peut-être que les chevaux nous méprisent et ont des cercles de chevaux élitistes où ils disent qu'ils sont bêtes, ces humains.
J'en ai peur.
Ouais. Bon, Thierry Lhermitte, je ne pensais pas prononcer un jour cette phrase dans l'émission, mais voici une archive où on vous entend péter.
Est-ce que... Pardon, Thierry.
Ouais, pardon, excusez-moi.
Vous avez gommé en direct, Thierry. L'incontinence en flatulence, c'est un truc sacré, Thierry.
Je suis désolée. C'est à vous. Émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine. Ouais. Il y avait Pierre Lescure face à vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'on entend, Thierry
Lhermitte? C'est une machine qui s'appelle la fart machine. Fart voulant dire paix en anglais. Voilà. Donc, c'est une machine à télécommande. Donc, on a une petite télécommande comme télécommande de voiture qui déclenche une série de bruits de paix, hein, sur le petit haut-parleur qu'on a le droit de placer où on veut secrètement. Par exemple, si je voulais vous gêner, par exemple, j'aurais pu le mettre sous votre chaise et pendant qu'on parle, j'aurais pu le déclencher. Je ne l'ai pas fait. Voilà, donc, comme il savait que j'étais amateur de cet objet idiot qui s'achète sur un site qui s'appelle, je sais plus comment, sillyjokes.com. Et donc, j'ai beaucoup ri. Bon, maintenant, je m'en suis lassé, mais j'ai énormément ri avec cet objet. Encore une fois, pas pour faire honte aux gens, mais justement, on le faisait pour voir si on était capable d'assumer la honte. À savoir que, en fait, avec un ami, on avait deux télécommandes. Chacun se le mettait dans sa poche arrière. Et on donnait la télécommande du sien à l'autre.
Oui, donc, la en gros,
l'autre
oui.
vous faisait péter à volonté. Voilà. Quelles que soient les circonstances, il fallait tenir le coup. Donc, au restaurant. Donc, moi, ça m'est arrivé avec des jeunes filles qui voulaient faire des photos avec moi à la sortie d'un restaurant. Voilà. Moi, je l'ai fait à un camarade qui passait à la douane américaine. Voilà. Bon, voilà, faut tenir, c'est un exercice de stoïcisme.
Oui, vraiment. Alors, évidemment, si on a choisi cet extrait, c'est pas uniquement pour parler de flatulence, c'est parce que...
Ça, c'est un remède à la mélancolie.
Oui, ça, vraiment, c'est un coussin péteur évolué dont vous nous parlez.
Ça me déclenche un rire... Un rire dément, quoi.
C'est assez irrésistible. Ouais. Thierry Lhermitte, dans vos remèdes, il y a les farces. Vous aimez faire des farces. Et dans une interview, Josiane Balasco dit qu'à l'époque du Splendide, vous organisiez des farces pendant des semaines et que récemment, vous avez loué un Chip and Dale à un producteur coincé.
C'est exact. C'était une vengeance pour un truc, un sale coup qu'on m'avait fait. Et donc, dans une soirée aux États-Unis avec le gouverneur de l'État, tout le cinéma, machin, etc., je lui ai envoyé un Chip and Dale qui s'est dessapé et lui a fait un striptease à cheval sur lui, qui était assis à une table avec tout le monde, qui piquait du nez, qui regardait dans son assiette tellement ils étaient gênés. Moi, j'ai roulé par terre de rire. Voilà, c'était une vengeance amusante.
Mais vous aimez rire à froid. Vous dites que vous aimez rire avec sobriété et sérieux.
Non, mais j'aime bien. J'ai les larmes qui me sortent des yeux, là. Franchement, avec le Chip and Dale ou avec la fart machine, j'ai eu des rires épouvantables. mais c'est marrant de tenir, d'essayer de pas rire et d'être, de succomber, d'être submergé par cette émotion.
Vous avez parfois l'habitude d'employer de fausses expressions en restant très sérieux avec des journalistes, notamment avec Marie Drucker, à qui vous avez dit « c'est passé par pertes et fracas » et elle n'a pas osé vous corriger.
Oui, j'ai bien vu qu'elle tiquait, et voilà. Mais ça m'amuse, quand c'est un peu chic, ça m'amuse. De dire une grosse bêtise, des expressions, on l'a cloué au pilotis, des trucs comme ça. Non pas pour dire parce que ça garde intérêt de dire ça, mais pour voir la tête de la personne qui se demande si est-ce qu'on va vous corriger ou pas, est-ce qu'on vous prend pour un imbécile ou pas. C'est juste un petit plaisir, un peu pervers. Pour dire,
non, mais ça pourrait être un personnage de Mario Monicelli.
Oui, absolument, absolument.
Thierry Lhermitte, vous arrive-t-il d'être grave ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Vous vous étiez dit que jamais vous ne joueriez de personnage grave et seul en scène. C'est pourtant ce que vous faites là, en ce moment, au Théâtre Antoine, dans Fleurs de Soleil, adapté du livre éponyme de Simon Wiesenthal et mis en scène par Steve Suissa.
Oui, je m'étais pas... J'avais jamais imaginé que j'allais pouvoir jouer seul en scène un truc sérieux. Voilà, non pas que je n'aime pas les trucs sérieux seul en scène, je vais les voir avec grand plaisir, mais moi, ça me faisait très peur. Un, d'être seul en scène, je pensais que j'allais m'embêter. Et puis deux, la légitimité, compte tenu de ma carrière, de raconter un truc sérieux et grave, il faut bien le dire. Donc j'ai dû surmonter beaucoup d'angoisse avant d'y trouver beaucoup de plaisir maintenant.
Est-ce que la gravité vous fait peur dans la vie ? Thierry Lhermitte.
C'est-à-dire, attends, la gravité, moi, ça me va très bien quand c'est pas lourd.
Voilà. Oui, mais c'est difficile.
Voilà. C'est... Oui. Oui, mais ça fait toute la différence, quoi. Voilà. C'est comme les blagues pas drôles. Voilà. C'est un petit parallèle un peu osé, mais voilà. Il y a des gens qui aiment bien faire des blagues pas drôles. Moi, j'adore les blagues drôles. Et ben, moi, j'aime bien la gravité quand elle est pas lourde.
Avec un coussin pétard.
Non.
Il vous reste 5 jours à vivre. Sans bruit de paix.
Sans mélanger. Voilà. Il y a des gens qui ont une gravité qui n'est pas lourde et une gravité élégante. Intelligente, voilà. Si c'est pour dire des choses moyennement intelligentes avec un air pontifiant, alors c'est pas possible.
Non, mais l'air pontifiant, il faut l'écarter de toute façon.
Non, mais ça empêche pas de dire des trucs. Vraiment, je me régale dans Fleurs de Soleil à dire des trucs, un, qui m'émeuvent et deux, auxquels je crois profondément et qui sont intéressants. Mais pas pour dire les cheveux ça pousse, la guerre c'est horrible, voilà.
L'homme est une question de persévérance.
Ah oui, ça
c'est votre phrase préférée du spectacle.
Ouais, c'est la dernière phrase. L'homme est une question de persévérance. Ouais, les petits pas, jamais lâcher, de pas en avant, un pas en arrière. Ouais, c'est ça l'homme. Ouais. Ouais.
Dans un instant, vous nous lirez un poème juste après un morceau de la playlist France Inter Revival de Gregory Porter.
I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down and I'm afraid. I'm afraid. But you live. Trying to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Thierry Lhermitte.
Perron, c'était la mer, c'est la mesure de la mer, c'est la mesure bretonne, c'est la mesure de Tristan et Isolde. Un côté secret, un côté mystérieux. C'est vraiment un très grand bonhomme. Hein. Vous savez, ici en Bretagne, on disait à Zavonnet, Monsieur Perron, Anton Perron, c'est-à-dire le Seigneur.
Le poète Xavier Gran n'a jamais donné d'interview. La seule fois où sa voix a été enregistrée, c'était au téléphone pour parler de son ami Georges Perros dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture en 75. Vous avez choisi, Thierry Lhermitte, de nous lire l'un de ses poèmes.
Un morceau, parce qu'il y écrit des poèmes très longs, et je connaissais pas du tout cet homme-là. Et un jour, j'écoute sur France Inter l'interview du Goncourt de poésie, je crois que c'était ça, qui cite un extrait de Xavier Gral, et je trouve ça tellement beau. Du coup, j'ai commencé à lire Xavier Gral. Et c'est un poète maudit, hein. C'est vraiment, il est mort à 51 ans. Je pense qu'il picolait énormément, qu'il fumait comme un pompier, qu'il était désespéré tout le temps. Les photos sont hallucinantes. Voilà, il a écrit un poème qui s'appelle Solo, qui est, je pense, de la fin de sa vie, puisqu'il implore Dieu de le considérer un peu. Et il dit, voilà, Seigneur, me voici, c'est moi, je viens de Petite-Bretagne. Je vais sauter des passages parce que c'est très long. Et François Villon dormait dans une auberge à Montfaucon. Dans les Ardennes, des corbeaux et des hêtres, Rimbaud interpellait les écluses, les canaux et les fleuves. Verlaine pleurait comme une veuve dans un bistrot de Lorraine. Et un peu plus tard, il dit « Seigneur, me voici, c'est moi. De votre terre, j'ai tout aimé. Les mers et les saisons, et les hommes étranges meilleurs que leurs idées. Et comme la haine est difficile. Les amants marchent dans la ville. » Souvenez-vous de la beauté humaine dans les siècles et les cités, mais comme la peine est prochaine. Seigneur, me voici, c'est moi, j'arrive de lointaine Bretagne. Ô ma barque belle, parmi les bleuets et les dauphins, les brumes y sont plus roses que les toits de l'Espagne. Je viens d'un pays de marins. Les rêves sur les vagues sont de jeunes rameurs qui vont aux îles bienheureuses de la grande mer du Nord. Je viens d'un pays de musiciens, liesse, colères et remords amènent les vents hurleurs sur le clavier des ports.
C'est très, voilà, très beau.
Ça me scotche, c'est vraiment dingue. Alors, quand on demandait dans Remède à la mélancolie, alors lui, c'est la mélancolie, c'est la douleur, la tristesse, c'est abominable, mais qu'est-ce que ça crée? Ben voilà, ça crée des merveilles.
Ça, c'est le spleen transcendé par la poésie.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous dire de quel recueil ou de quel poème
Solo,
est extrait?
Ça s'appelle.
Solo.
Et c'est un très très long, poème, et voilà, qui se termine enfin en partie par « Ma belle passante, mon étrangère, la vie s'en vient, la vie s'en va, long la long laine, etc. »
Thierry Lhermitte, vous dites que vous êtes davantage passionné de lecture que de cinéma.
Oui.
Vous lisez toujours autant?
Ouais, je lis toujours autant. J'ai une pile de bouquins d'avance terrible. Je suis heureux de retrouver mon bouquin tous les soirs. Alors que c'est rare que je me précipite le mercredi pour voir un film, que voilà, la lecture me fait rêver plus que le cinéma. Voilà. C'est comme ça. Donc, mon fantasme de ce que la lecture va m'apporter est plus fort que celui du plaisir d'aller voir un film. C'est comme ça.
Et quel est le dernier livre qui vous a captivé?
Le dernier livre qui m'a captivé...
Ou la lecture en cours
Un livre de mathématiques.
Parce qu'on s'est parlé de notre passion des mathématiques hors antenne commune.
Oui, ça s'appelle « La formule du savoir » sur le théorème de Bein, mais on ne peut pas parler de ça dans une mission de grand public, parce que c'est vraiment super pointu. En même temps, c'est une vision de la vie qui est extraordinaire, parce que dans les sciences de la vie, aujourd'hui, justement, on s'aperçoit que la vie est probabiliste. Que la génétique est probabiliste, tout simplement parce qu'il y a tellement d'interactions et de paramètres les uns avec les autres tout le temps qu'il y a peu de choses vraiment déterministes, ou alors quand la probabilité est tellement énorme qu'il y a vraiment toutes les chances qu'elle arrive. Du coup, c'est vraiment le paradigme du déterminisme, un gène fait ceci ou même 10 gènes font cela, est remis en cause. Les mutations dans les multiplications des cellules, elles sont constantes et elles sont probabilistes aussi, même si la probabilité se produit le plus fréquemment quand elle est élevée. Du coup, ça change vraiment la vision du monde. Voilà.
Et vous d'ailleurs, Thierry Lhermitte, justement, par vos engagements, vous allez rencontrer régulièrement les chercheurs, ouais. Vous allez dans les labos, vous êtes au courant des recherches en cours.
Ouais.
Est-ce que c'est plutôt rassurant ?
Ouais, c'est formidable. Oui, pour la Fondation pour la recherche médicale, je vais tous les mois dans les laboratoires, puis je vais en parler. Et alors, oui, c'est rassurant parce que la science avance, la connaissance avance, et d'une manière exponentielle, grâce aux nouvelles techniques. En même temps, la complexité augmente avec la connaissance. Voilà. Bien sûr que ça donne de l'espoir. Il y a des cancers qu'on ne soignait pas il y a 20 ans, qu'on soigne beaucoup et énormément aujourd'hui. Les avancées dans la thérapie génique, les thérapies ciblées dans le cancer, c'est vraiment énorme. Puis il y a des nouveaux défis qui arrivent.
Big, big house, no picture, fancy love, no healing at all. So every day he gives up on his hope, waiting for the fame to do the job. He doesn't really sleep anymore. His mind is too busy to move. And basically that's all he does, killing time and counting clocks, gazing at his aquarium. 'Cause anyway, that's all he got.
Thierry Lhermitte, on vous a demandé des morceaux réconfortants. Vous nous en avez donné un d'Alain Souchon et l'autre, vous venez de nous le communiquer juste avant l'émission. Alors je vous laisse nous en parler parce que j'ai pas d'informations dessus.
Loni Montem, c'est une artiste qui chante avec Guillaume Charest là, sur ce disque qui s'appelle Tara. Et je pensais que Remède à la mélancolie, c'est un peu mélancolique, mais c'est de la bonne mélancolie. En dehors de ça, j'adore cette voix et je trouve cette chanson magnifique, mais voilà comment on sublime la mélancolie dans quelque chose de créatif et de pas triste, bien que ce soit mélancolique. Voilà, c'était ça l'idée.
L'autre sérum musical que vous avez choisi, c'est un morceau de 99, Le baiser d'Alain Souchon, avec lequel vous avez tourné. Un mot avant de l'écouter, je sais que vous appréciez particulièrement un air lassé de Reine à Langui, elle est repartie.
C'est de l'écriture magnifique, voilà. Écrire ça, c'est comme... C'était à Mégara, les faubourgs de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. C'est un agencement des sons par-dessus le sens qui est magnifique. Voilà, parce qu'un air lassé de Reine à Langui, ça sonne et puis ça veut dire quelque chose de profond. Et voilà, c'est ça que j'admire chez Souchon, en plus de sa voix et de ses musiques que j'adore.
Vous lui avez fait découvrir une région. Alain Souchon,
où est-ce qu'on est allé? On est allé dans plusieurs
endroits. Dans le Briançonnais, la vallée de Saint-Chevalier.
Oui, absolument.
Où il a acheté une maison.
Exactement.
J'avais envie de donner une information inutile pour meubler. Voilà qui est fait. On écoute Alain Souchon alors.
Ouais.
Le baiser.
Je chante un baiser. Je chante un baiser osé. Sur mes lèvres déposées. Par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser. Marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malo vraie dune, la mer du Nord en hiver, sortait ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés. Jugez ma fortune, sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes, en blonde j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers, tournez le ciel et tournez la terre, tournez, tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, fancy faire à la fraise. Dun, 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 dun. Dun. calcomanie. Marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ pour ce moment délicieux hasard. Adam O.M. si sola, oh tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique envoyait mélancolique ses flonflons à la française, de fancy fer à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien. Ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à l'anguille. Sur la digue, un petit point parti dans l'audit de son mari. Oh, son mari. Je chante un baiser, je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Thierry Lhermitte et ses peintures anti-spleen. Alors vous avez choisi trois artistes, Van Gogh, Matisse et Picasso. Parlons d'abord de celui qui s'est tiré une balle dans le cœur à 37 ans,
Van Gogh. Bah oui, Van Gogh, oui. Alors Van Gogh, il vend zéro tableau pendant toute sa vie.
Oui, parce qu'en fait, il voulait faire carrière comme marchand d'art, mais il n'aimait pas l'idée que l'art soit vu comme une marchandise. C'est assez noble.
Personne n'en voulait, surtout de ses peintures.
Ah bon fait.
Bah oui, non, mais il ne pouvait pas en vendre. Il aurait bien aimé, parce qu'il est obligé de demander de l'argent à son frère tout le temps. Donc, voilà, Théo. Le génie, personne n'en veut. Bon, une vie épouvantable, un cauchemar, était un peu givré, hein, faut bien le dire, mais une souffrance permanente pendant toute sa vie. Et puis, voilà, et puis les peintres de la gaieté, de génie du trait, c'est-à-dire Picasso, qui a passé sa vie à fréquenter énormément de femmes.
Qui l'a rendue très très malheureuse.
Oui. Bah lui non.
Non, lui pas du tout.
Très bien. Aller au corrida, faire des dessins sur les tables.
Pour payer le resto.
Mais c'est dingue quoi. Voilà. Donc voilà. La création est pas forcément douloureuse et la douleur ou le bonheur sont indépendantes du talent et c'est sans rapport. Voilà. Et ça fait se poser la question, parce que si on vous demande, vous voulez être Van Gogh ou Francis Flamingue, que vous ne connaissez pas, j'imagine, non plus que Firmin Gérard, qui sont des peintres célèbres de l'époque de Van Gogh, qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Eh ben, moi, je crois que sans hésiter, je veux être Francis Flamingue.
Moi aussi, juste pour qu'on me dise Flamingue.
Voilà. Ouais.
Allô, monsieur Flamingue?
Même Firmin Gérard.
Firmin.
Je veux pas avoir la vie de Van Gogh.
Non.
Même s'il a fait l'œuvre de Van Gogh.
Et en plus, voilà. On peut avoir la vie de Van Gogh sans aucun talent et sans faire d'œuvre.
Absolument.
Ça, c'est accessible.
Ouais, voilà.
Votre arrière-grand-père, Léon Lhermitte, ouais, était peintre.
Oui, de cette époque-là. Donc, c'est un peintre qui a eu beaucoup de succès, qui a eu des tas de commandes d'État. Et ben, à choisir entre les deux, ben oui. Je suis sûr qu'il y a des gens qui choisiraient l'œuvre, quitte à souffrir. Ben moi non, mais il faut de tout.
Et vous avez une fille, Thierry Lhermitte, qui est artiste peintre.
Oui, Astrée, absolument. Et qui fait des choses que j'aime beaucoup, 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 qui a beaucoup de talent.
If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same.
Michael Caine, le 21 septembre 2017, lors de la Journée internationale de la paix, le comédien interprète le fameux poème écrit par Rudyard Kipling en 1895, « Tu seras un homme, mon fils », la traduction est d'André Mauroy. Vous avez choisi, Thierry Lhermitte, la citation reproduite à l'entrée des joueurs du cours central de Wimbledon. si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Est-ce que vous arrivez à recevoir ces deux menteurs d'un même front? Parce qu'il y a deux idées dans cette phrase. La première, c'est de supporter la défaite. Et aussi, c'est aussi terrible que réjouissant, savoir que le triomphe, tout comme la défaite, sont des mensonges, puisque ne sont que des représentations, finalement.
Et ben, je souscris, mais alors à 100% avec ça. Alors, la défaite ne fait plaisir à personne, moi compris. Et en fait, moi, la victoire ne m'apporte aucun plaisir. Donc,
aucun?
Entre les... Non.
Jamais.
Non, jamais.
C'est assez surprenant.
Franchement, je n'ai. C'est pour vous dire si je suis un bon compétiteur, parce que je déteste perdre, mais je n'aime pas gagner. Donc, alors, je crois que c'est pas pour moi. Du coup, je me sens assez à l'aise avec cette, même avec les deux sens de cette citation, à savoir, ce sont les supporter d'un même front et de menteur. Oui, bien sûr, de menteur. Bien sûr, de menteur. Quand on a une carrière dans le cinéma, ce qui veut donc dire qu'on fait un succès pour 10 échecs à peu près, sauf si on fait très peu de films, ça c'est autre chose, on est bien obligé de supporter les réussites comme les échecs et de menteurs. Ouais.
Il y a une consolation mathématique à nouveau dans ce que vous venez de soulever, Thierry Lhermitte, puisque plus on fait de choses et plus on a de risques d'échecs. C'est quelque chose qu'on oublie, mais c'est tout à fait normal, mathématiquement parlant,
exactement,
de multiplier les risques et les choses, et donc les échecs.
Absolument, c'est pour ça que voilà, les statistiques faites sur peu d'exemples n'ont absolument aucune valeur.
Il faut s'approcher des grands nombres
pour
avoir une moyenne. Thierry Lhermitte, pour terminer, vous nous avez apporté un bonus, c'est un poème de Victor Hugo.
Ah oui, bah ça je ne vais pas vous le lire, mais ça, c'est « Avilquier », c'est un des chefs-d'œuvre de Victor Hugo. Victor Hugo perd sa fille Léopoldine, qui se noie dans la Seine, et... Il n'est pas là, il est en voyage d'études avec sa fiancée, quand il apprend ça dans un bistrot en Bretagne, en Vendée. Et Juliette Drouet va installer la chambre, quand elle le retrouve, il est effondré, il l'apprend par les journaux. Donc un petit peu de culpabilité de ne pas être là quand même, voilà. Donc il écrit divers poèmes sur Léopoldine, et puis Avilquier, il l'écrit quand... il dit le temps a passé, il dit maintenant que Paris, ses pavés, ses marbres et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous les branches des arbres et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'homme obscur, je sors pâle et vainqueur et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur. Et il raconte, je sais, Seigneur, que je viens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant. Je conviens que vous seul savez ce que vous faites et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent. Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme ouvre le firmament et que ce qui s'y-bas nous prenons pour le terme est le commencement. Voilà, il dit, je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Voilà, il dit, il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent, je le sais. Oh mon Dieu, je le sais, voilà, il accepte tout ça. Et il termine par un vers brutal après cette litanie, cette imploration et cet agenouillement devant le Seigneur. Il dit, quand on a vu 16 ans de cet autre soi-même croître la grâce aimable et la douce raison, lorsqu'on a reconnu que cet enfant qu'on aime fait le jour dans notre âme et dans notre maison, que c'est la seule joie ici-bas qui persiste de tout ce qu'on rêva, considérez que c'est une chose bien triste de le voir qui s'en va. J'ai mis un petit coup de mélancolie.
Oui,
voilà,
un gros
pour l'émission.
Coup.
Voilà. Ouais.
Est-ce que vous pleurez facilement, Thierry Lhermitte?
Oui.
Et en lisant notamment?
Celui-là, si je le lis à haute voix
en entier,
je en sanglots, les larmes coulent pendant que je le raconte. Tellement... La démarche du poème de dire « Je sais, Seigneur, je sais, oui, il faut accepter, après la mort, c'est une nouvelle vie, enfin, ce que je ne crois pas, mais ce que Victor Hugo dit, il faut accepter, il faut passer, je sais, considérer que c'est une chose bien triste de le voir qui s'en va. Wow. »
Oui.
Voilà, c'est, voilà.
Merci beaucoup, Thierry Lhermitte, d'être venu dans cette émission. Jusqu'au 12 avril, je dis ça avec la chair de poule de Victor Hugo. Vous serez sur la scène du théâtre Antoine dans Fleurs de Soleil, pièce adaptée du livre éponyme de Simon Wiesenthal, mise en scène par Steve Suissa. Au cinéma, les prochains films, vous serez dans Brutus versus César, film de Cheiron en salle le 1er juillet prochain. Et puisque nous sommes dans le futur, j'annonce aussi Homme au bord de la crise de nerfs d'Audrey Dana en salle le 19 août et Do You Saint-Tropez, j'imagine d'après la chanson, de Nicolas Benamou en salle le 27 janvier 2021. On vous retrouve une fois par mois sur la chaîne dans Grand Bien Vous Fasse d'Ali Rebeilly et il semble que vous soyez en cours d'écriture d'une adaptation libre de la série d'Éric.
C'est exact.
Ah, quelle bonne nouvelle.
D'Éric Dasfilm.
Oui. Ah, en film.
Yeah.
Ah, formidable.
Yeah, yeah.
Bon, chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont sur le site de l'émission. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que votre humeur a l'équilibre d'un chou-fleur funambule. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.